Bonjour. L'Aveyron, pour vous, c'est peut-être d'abord le Roquefort ou l'Aubrac, peut-être les gorges du Tarn.
Oui, des images assez connues.
Eh bien, préparez-vous à être surpris. Parce que bien avant ça, figurez-vous que ce département a été un pionnier assez étonnant de l'hydroélectricité en France.
Absolument. Une vraie aventure de ce qu'on appelait la houille blanche, hein, l'électricité venue de l'eau.
Exactement, contrairement à la houille noire, le charbon. Et ça a commencé à transformer la région dès la fin du 19e siècle.
Dès cette époque, oui.
Et pour explorer ça, on s'appuie aujourd'hui sur une source vraiment fascinante, le bulletin numéro 74 du Cartoclub Aveyronnais. Ce qui est génial, c'est qu'il utilise des cartes postales anciennes pour retracer cette histoire. C'est très visuel, du coup.
Tout à fait. Et ce bulletin, il nous offre vraiment une perspective unique sur l'arrivée et puis l'exploitation de cette énergie nouvelle en Aveyron. On part de 1885.
Si tôt que ça ?
Oui, oui, 1885, avec la toute première usine, si on peut dire, à l'abbaye de Bonneval. Et on va jusqu'aux grands aménagements des années 30, comme le barrage de Saran, un projet immense.
D'accord. On va donc découvrir ensemble des pionniers, parfois un peu oubliés, des innovations techniques qui étaient quand même assez bluffantes pour l'époque.
Oui, tout à fait.
Et puis l'impact très concret que l'électricité a eu sur la vie des gens, l'industrie locale.
C'est ça.
Et il faut vraiment saluer le travail des auteurs principaux du bulletin, Jean-Pierre Razema, Bernard Clermont, Gilbert Régour et aussi Guy Mazars, le rédacteur en chef, parce que la mise en page est superbe, ça rend les récits très vivants.
Oui, c'est un beau travail de documentation et de présentation. Notre objectif commun aujourd'hui, c'est d'extraire un peu les pépites, les infos clés de tout ça, pour comprendre comment l'Aveyron est devenu un acteur important, même si discret, de cette révolution électrique française.
Alors, par où ça commence exactement ? Le tout premier site électrifié en Aveyron, c'est pas une ville, c'est pas une usine, c'est une abbaye.
Exactement, l'abbaye de Bonneval, en 1885.
Démoniale trappistine.
Démoniale ? Et elle faisait quoi ? Du chocolat, c'est ça. Quel rapport avec l'électricité ?
Justement, c'est le besoin d'énergie pour leur chocolaterie qui était assez florissante. Elles étaient un peu isolées, là-bas, au Carol.
Et elles ont eu l'idée d'installer une turbine sur la Boralde, un cours d'eau tout proche. Mais il y avait un hic, un vrai défi technique.
Ah oui.
Lequel ? 100 mètres de dénivelé entre le moulin, où était la turbine, et le monastère lui-même. Fallait amener la force mécanique jusque là-haut.
100 mètres ? Comment ils en faisaient à l'époque ?
Avec une innovation assez géniale, la télédynamie.
Quoi ?
Télédynamie. C'est un système de transmission de force à distance, avec un long câble métallique qui bouge. Ce câble, il était entraîné par la turbine en bas.
D'accord.
Et en haut, il actionnait les machines de la chocolaterie et une dynamo. Un générateur électrique, quoi, pour l'éclairage.
Et ça a marché ?
Et ça a marché. Le monastère était éclairé pour Noël 1885. C'était une vraie prouesse, et ça s'est su.
Une abbaye high-tech en 1885 avec un câble qui transporte l'énergie. C'est incroyable. Et j'imagine que ça a donné des idées.
Oui, forcément. L'exemple de Bonneval a directement inspiré la ville d'Espalion.
Ah, Espalion.
Oui, qui, dès 1888, gagne le surnom de « Ville Lumière ». Elle devient la 5e ville de France électrifiée par l'hydroélectricité.
5e ville de France, ouais. Pas mal pour l'Aveyron. Et comment ils se sont pris ?
Ils ont fait un peu pareil. Ils ont adapté un vieux moulin sur le Lot, le moulin d'Olt, le meunier Paul Rieux, qui était aussi le maire d'Espalion, avait vu ce qui s'était fait à Bonneval.
Malin ?
Oui, il a fait appel à l'ingénieur Ernest Lamy, le même qu'à Bonneval. Ils installent une turbine, une dynamo. Résultat, 45 lampadaires publics dans les rues.
La classe ! Mais le bulletin dit que ça n'a pas été si simple, cette histoire, à Espalion.
Non, effectivement. Assez vite, il y a eu des polémiques. Sur la concession, en fait, qui avait été accordée à la société du maire, Rieux, pour exploiter tout ça.
Ah, déjà des histoires d'intérêt.
Voilà. Un certain Henri Bellière, on en reparlera peut-être, a d'ailleurs dénoncé ces arrangements un peu plus tard. Ça montre que dès le début, l'énergie, c'était un enjeu économique et politique, quoi.
On voit. Et dans le sud du département, ça a bougé aussi ?
Oui, un peu après, en 1894, c'est le couvent de Tournemire qui s'électrifie, premier site du sud d'Aveyron.
Même méthode.
Même méthode, oui. On prend un moulin existant, là, sur le ruisseau de Brias. L'installateur, c'est un certain Xavier Moulin qui avait bossé à Espalion. Et l'idée venait de Dom Bernex, un moine de Bonneval.
Le monde est petit.
Voilà. Turbine, dynamo, environ 200 lampes. Apparemment, l'arrivée de la lumière électrique a été un vrai émerveillement pour la communauté là-bas.
C'est fascinant, ces débuts. On sent une vraie effervescence locale. Mais bon, éclairer les rues, les couvents, c'est une chose. Quel impact ça a eu sur la vie des gens ? des artisans, par exemple. Le bulletin raconte une histoire assez touchante, celle de la famille Bélière.
Ah oui, ça c'est un témoignage vraiment fort, tiré d'un livre qui s'appelle « Trois fois rien ». C'est presque de l'ethnographie, ça nous fait vivre la transition énergétique vue par un artisan, Auguste Bélière, ébéniste à Rodez.
Et son atelier avait quoi de spécial ?
Sa source d'énergie. C'était, une immense roue en bois. Une sorte de cage à écureuil géante, en fait.
Une cage à écureuil ? Mais avec quoi dedans ? Des écureuils ?
Non, pas des écureuils. Des chiens.
Des chiens ?
Oui. Les chiens de la famille couraient dans la roue pour faire tourner les machines de l'atelier. Et le jeudi, quand il n'y avait pas école, hop, c'était les enfants Bélière qui prenaient le relais.
C'est incroyable.
Le livre décrit ça très bien, cette énergie musculaire, animale, humaine. C'était ça, la force motrice. Mais ça n'allait pas durer.
Dépassé par la vapeur.
La vapeur.
Le gaz.
Oui, d'abord la vapeur, puis le gaz, et puis très vite, les moteurs électriques qui arrivent dans les ateliers à Rodez à ce moment-là. Forcément, l'atelier d'Auguste Bélière avec ses chiens, il ne pouvait plus suivre, quoi.
J'imagine la difficulté. Il a dû arrêter ?
Oui, malheureusement. Il a fermé son atelier à Rodez et il a déménagé à Espalion. Pour aller travailler où ? Dans la scierie électrique de son demi-frère, Henri Bélière.
Ah, le fameux Henri Bélière qui critiquait la mairie d'Espalion.
Le même ? Personnage intéressant, cet Henri. Autodidacte, passionné d'électricité. Il a aussi électrifié lui-même les villages d'Estingue et de La Guiole. Un vrai entrepreneur local.
Et pour Auguste ? Le changement a dû être brutal, non ? Passer de sa roue à chien à une scierie électrique ?
Oui, le récit montre bien ce contraste. D'un côté, l'artisanat traditionnel, le tour à bois d'Auguste, les sueurs de long. Et de l'autre, l'efficacité industrielle, la puissance de la machine électrique. C'est le progrès, bien sûr, mais c'est aussi la fin d'un monde pour certains. Des savoir-faire qui disparaissent, des vies qui changent complètement.
Cette histoire personnelle, ça illustre vraiment bien la transformation énorme qui était en cours. Mais au-delà de ces cas, comment ça s'est organisé à plus grande échelle, cette électrification ?
Alors, après cette première phase, très locale, très pionnière, on passe à une autre étape, plus structurée. Vers 1918, le bulletin dit qu'il y a déjà 31 usines électriques en Aveyron.
31 usines ?
Oui.
C'est pas mal.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que 28 de ces usines, ce sont d'anciens moulins à eau, qui ont été adaptés. Ça montre bien la transition.
On réutilise ce qui existe.
Exactement. Mais on voit aussi apparaître des usines plus importantes, construites pour ça, comme celle du Truel, sur le Tarn. Elle appartenait à la Société d'énergie électrique de la Sorgue et du Tarn.
La Société Sorgue et Tarn. Ils ont construit cette usine du Truel. Pourquoi ? Il y avait un besoin en particulier ?
Oui, et la raison est assez surprenante. C'était principalement pour fournir l'électricité nécessaire au froid industriel, des caves de Roquefort.
Non.
Pour le fromage ?
Oui.
L'affinage du roquefort, ça demande de maintenir les caves à une température basse et constante. Et ça, ça consomme beaucoup d'énergie, surtout pour l'époque.
Je n'aurais jamais pensé que le roquefort avait joué ce rôle.
Et pourtant, du coup, cette société Sorgue et Tarn, un gros acteur régional, a développé un premier vrai réseau électrique. Une ligne qui allait du Truel à Rodez et puis qui descendait vers le bassin industriel de Decazeville. Un besoin très spécifique qui tire développement de tout un réseau.
Fascinant. Le bulletin parle aussi d'un autre gros projet, le barrage de Thuriez. Il n'est pas tout à fait en Aveyron, mais il a l'air important pour le département.
Tout à fait crucial même. Il est construit sur le Vior, une rivière qui prend sa source en Aveyron, mais qui coule ici dans le Tarn. Chantier entre 1918 et 1925. Et, petite fierté locale, les plans sont d'un ingénieur aveyronnais, M. Vergne de Castelpaire.
Et ce barrage, il serva à quoi ?
Sa fonction première était très claire, alimenter en électricité une grosse usine, l'usine de zinc de la société Vieille Montagne. Et cette usine, elle était bien en Aveyron, à Viviez.
D'accord. Et l'étude de Gilbert Regour, elle montre quoi sur l'impact de ce chantier ?
Elle détaille bien les conséquences locales. À Pamplonne, la commune tarlasse qui accueillait le barrage. C'était un chantier énorme, donc.
J'imagine. Beaucoup de monde, des problèmes.
Exactement. Afflux d'ouvriers, beaucoup d'étrangers d'ailleurs. Ça a créé des tensions, des problèmes de ravitaillement en tabac, en charbon. Il y a eu une grosse grève en 1920 pour les salaires, les conditions de travail. Et puis beaucoup d'accidents.
Ah oui.
Et au final, les retombées économiques directes pour la petite commune de Pampelonne, au début, elles étaient assez limitées. C'est la complexité de ces grands projets industriels, quoi.
On voit bien les aspects sociaux, économiques. Et au milieu de tout ça, il y a un personnage un peu inattendu qui apparaît. Maurice Fenaille, le roi du pétrole. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ?
C'est une autre facette de cette époque foisonnante. Fenaille, richissime grâce au pétrole, oui, mais entre 1893 et 1911, il achète et il modernise trois vieux moulins sur la rivière Aveyron, près de Rodez. Montrezière, Roquemissou, le monastère.
Et il en fait quoi?
Pour Roquemissou, par exemple, il le transforme en petite centrale électrique pour éclairer le village. Une sorte de mécénat industriel, si on veut. Investi dans le développement local.
Intéressant. Donc on a les villes qui s'éclairent, les industries qui se modernisent, mais les campagnes. Le Ségala, par exemple, une région plus rurale, comment l'électricité est arrivée là-bas? Souvent, c'est les derniers services.
C'est vrai. Et dans le Ségala, l'électrification, elle doit énormément à une personne. L'abbé Théophile Chinchol.
Un abbé?
Oui, un curé très dynamique. C'est lui qui a été le moteur pour créer le syndicat intercommunal de l'Escurjaoul en 1921. On pense qu'il a eu l'idée en voyant passer la grosse ligne électrique Thurier-Vivier qui traversait la région.
Malin, lui aussi.
Très. Il a réussi à convaincre plusieurs communes de se mettre ensemble pour exploiter le potentiel de leur rivière locale, le Jaoul, dans les gorges.
Donc là, c'est un projet qui vient vraiment du terrain des communautés elles-mêmes.
C'est exactement ça. Une sorte d'électrification par le bas. Et c'était pas simple, hein, surtout pour trouver l'argent. Mais ils ont réussi. Ils ont construit une première usine entre 1926 et 28, avec un barrage et une conduite forcée, le gros tuyau, qui amène l'eau, assez innovante d'ailleurs, puisqu'elle passait au-dessus d'un ravin sur un aqueduc.
Ingénieux.
Et petit à petit, le réseau s'est étendu. Ça a amené la lumière, bien sûr, mais aussi la force motrice dans les fermes. Ça a changé radicalement le travail agricole. Ils construiront même une deuxième usine après la guerre, juste avant qu'EDF ne nationalise tout ça. C'est un super exemple d'initiative locale pour le développement rural.
Une belle histoire de coopération. Et pendant que ces projets locaux avançaient, l'Aveyron prenait aussi une autre dimension, sur le plan national cette fois.
Oui, là, on change complètement d'échelle. Les cartes du ministère des Travaux publics de l'époque, entre 1925 et 1930, celles que le bulletin analyse, elles le montrent très clairement. L'Aveyron, grâce à sa position centrale et son potentiel hydroélectrique, devient un vrai carrefour.
Un carrefour en... C'est-à-dire ?
Un nœud stratégique pour le transport de l'électricité à très haute tension, la fameuse THT.
Très haute tension. Pourquoi c'est important ?
La THT, c'est ce qui permet de transporter l'électricité sur de très longues distances en perdant le moins d'énergie possible. Donc l'Aveyron voit passer sur son territoire les grandes lignes qui relient les énormes productions hydroélectriques du Massif central, celles des Pyrénées et même celles de la vallée du Rhône. Le département n'est plus seulement un producteur, il devient une plaque tournante du réseau national qui se construit.
On est vraiment loin des débuts avec la dynamo de l'abbé. Et cette intégration nationale, ça s'accompagne de projets encore plus énormes, j'imagine. Comme le barrage de Sarens sur la Truyère dont parle Bernard Clermont.
Exactement. Bernard Clermont raconte bien comment cette rivière, la Truyère qu'on décrivait comme romantique, va être complètement transformée, devenir un chapelet de barrages, d'usines. Et le complexe Sarens-Bromat, construit entre 1929 et 1933, c'est le symbole de cette nouvelle ère, un monstre d'ingénierie pour l'époque.
Il faut imaginer quoi, c'est grand comment?
C'est gigantesque. Un barrage poids de 105 mètres de haut. Une usine, celle du Brézou, qui est carrément creusée dans la montagne à 300 mètres sous terre. Et puis un poste électrique énorme à Ruyère pour connecter tout ça au réseau national. Un point névralgique.
Et ça produisait beaucoup? Quelle était son importance?
C'était colossal. À sa mise en service, on estimait que Sarens allait fournir presque 20% de toute l'électricité produite en France.
20%, c'est énorme.
C'est dire l'importance stratégique. Mais, il y a un mais, cette démesure, elle a eu un coût humain très lourd.
Ah oui, des accidents.
Oui, il faut absolument le rappeler. On estime qu'environ 70 ouvriers sont morts sur les chantiers de Sarens et Bromat. Les conditions de sécurité étaient très précaires, quoi.
Quelle épopée quand même! De l'ingéniosité presque artisanale des sœurs de Bonneval avec leurs câbles, jusqu'à la puissance industrielle de Sarens et cette intégration dans le réseau national. L'Aveyron a vraiment eu un rôle clé, mais souvent méconnu, dans l'aventure électrique française.
C'est une histoire incroyablement riche, oui. Pleine d'innovations techniques, de transformations sociales, économiques profondes, et puis animée par des personnages marquants, que ce soit des pionniers locaux comme l'abbé Chinchol, des industriels comme Fenaille ou des grandes compagnies comme la Vieille Montagne.
Et les sources du Carte Club Aveyronnais sont vraiment précieuses pour comprendre tout ça.
Absolument. Le travail de Jean-Pierre Azéma, Bernard Clermont, Gilbert Regour, mis en valeur par Guy Mazars, nous offre une vision très détaillée, très humaine aussi, de cette période charnière.
Et pour finir, peut-être une question, une réflexion à laisser à ceux qui nous ont écoutés.
Oui, peut-être ceci, quand on regarde ces projets d'hier, les petites usines nichées dans les anciens moulins ou les barrages immenses qui ont redessiné des vallées, et qu'on pense à nos débats actuels sur l'énergie, sur l'écologie, sur l'impact sur les territoires.
Quelle leçon on peut tirer de cette histoire avironnaise ? Comment ces pionniers d'il y a un siècle ont géré cet équilibre difficile entre le besoin d'innover, la transformation des paysages, et puis les conséquences pour les gens sur place ? On a vu que c'était pas simple. Source d'enthousiasme parfois, mais aussi de conflits à Espalion, d'impacts sociaux contrastés à Turiès. Trouver ce juste équilibre, c'est une question qui reste terriblement d'actualité, non ?